Bonjour. Les élèves de la classe de géopolitique vont vous présenter différents aspects de l'Afghanistan pour une grande occasion. En effet, le lycée Ernest Feroul a l'honneur de recevoir deux journalistes afghans, Shafi Karimi et son épouse Sophia Karimi. Ils ont fui leur pays et vont nous communiquer des informations sur leur métier de journaliste en Afghanistan et leur combat quotidien pour pouvoir exercer leur métier. Tout ceci se déroule dans le cadre de renvoyé spécial. Les élèves vont donc, par groupe de 3, aborder des thèmes qui vous permettront d'en savoir plus sur l'Afghanistan et la complexité de ce pays. Les premiers intervenants, qui sont Julien, Naïs, Emma et Mathieu, vont vous éclairer sur l'histoire de l'Afghanistan avant 1973.
Effectivement, je vais vous parler de la royauté en Afghanistan avant 1973. L'Afghanistan avant 1973, c'est un pays très mouvementé, qui connaît beaucoup de changements à sa tête. On y retrouve notamment des personnages très importants. Amanullah Khan, par exemple, créateur de la royauté avant 1926, il est celui qui a instauré des réformes politiques et sociales importantes en Afghanistan. Par exemple, l'éducation, l'interdiction du mariage des jeunes filles sans leur consentement. Ensuite, il y a Kalakani, émir autoproclamé après l'exil d'Amanullah Khan. Kalakani sera exécuté par Mohamed Nadir Shah. Ce dernier est venu récupérer le trône d'Afghanistan avec l'aide des Britanniques et essaiera de poursuivre des réformes politiques et sociales d'Amanullah Khan. Il laissera par la suite son fils Mohammad Zahir Shah lui succéder. Mohammad Zahir Shah rejoindra la Société des Nations et mènera une politique neutre durant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Et en dernier, nous retrouvons Mohammad Daoud Khan, Premier ministre afghan de 1953 à 1963. Il démissionnera dû à la forte pression de l'opposition. Il montera et réalisera un coup d'État en 1973 et renversera donc le royaume.
En Afghanistan, l'utilisation du tribalisme et des ethnies est utilisée de manière abusive. L'Afghanistan est un groupe de solidarité, un patchwork, c'est-à-dire un groupe de fondement sociologique qui représente l'appartenance à un groupe primaire dès la naissance, qui aide par exemple à créer de la loyauté et de la solidarité, où l'on retrouve tout de même une hiérarchie.
Pour définir le tribalisme, il y a une définition assez complexe, la segmentation en plusieurs niveaux selon une généalogie patrilinéaire. Autrement dit, les tribus sont censées être sédentaires et donc détenir chacune un territoire. Mais parfois, plusieurs groupes peuvent occuper le même espace. La généalogie patrilinéaire est la succession de père en fils, comme les confédérations tribales. Douranis et Gilzei devraient donc descendre d'un ancêtre commun. Certains mots servent à définir le système. Kaliba signifie tribu, Clay signifie clan et Zei signifie un groupe quelconque. Le tribalisme ne recouvre pas l'ethnie. Ce dernier est très présent chez les Balouches et les Nourassitines et subsistent chez les Turkmènes, tandis que chez les Ouzbeks et les Aïnkès, il s'agit d'une réminiscence. Le tribalisme chez la plupart des personnophobes, sunnistes ou même chiites, ne fait pas de sens.
La tribu Ahmadiyya Pashtun est une tribu Pohanda. Ils suivent rigoureusement les Pashtun Wali, le mode de vie traditionnel qui est mieux décrit comme un code d'honneur du peuple Pashtun. Il y a des règles que personne ne peut enfreindre. La tribu Ahmadiyya est connue pour son hospitalité et son code de conduite strict. Ils sont aussi connus pour leur jirgard, qui est une assemblée tribale qui vise à prendre des décisions par consensus. Dans l'histoire, les Ahmadzai sont l'une des tribus les plus fortes et qui contrôlaient le pouvoir en Afghanistan.
Merci, nous pouvons maintenant passer à l'histoire de 1973 à 1989 avec Thomas, Jérôme et Julia.
Donc de 1934 à 1973, le roi Zahir Shah dirigeait l'Afghanistan. En juillet 1973, en raison de problèmes économiques et du manque de démocratie, il subit un coup d'État de son premier ministre Daoud Khan, soutenu par l'URSS. Ce coup d'État sera le premier d'une longue série durant les années 70. Khan devient le premier président de la République d'Afghanistan. Il reste au pouvoir durant 4 ans, durant lesquels il va mettre en place une sévère répression. Il perd le soutien de l'URSS et se fait assassiner lors d'un coup d'État militaire en avril 1978. Mohamed Taraki prend donc le pouvoir. Il instaure une république socialiste et cause un exode massif. Près de 10 000 personnes partent de la capitale en raison de la répression qu'il met en place. Son arrivée au pouvoir va faire réagir les islamistes radicaux. Taraki meurt, assassiné après un an à la tête du pays, par Azifullah Amin.
À cause d'une présence trop importante des talibans et de la prise du pouvoir par Amin, la Russie envahit l'Afghanistan le 24 décembre 1979. Ils assassinent Amin, même pas un an après son arrivée au pouvoir. L'URSS place à la tête de l'Afghanistan le président Kamal. Plusieurs pays sont en désaccord avec cette décision et décident de prendre des sanctions économiques contre la Russie, notamment le boycott des JO de Moscou par exemple. Pendant presque 10 ans, l'URSS a ravagé l'Afghanistan avant le retrait de leurs troupes en février 1989. Il se retire après une trêve avec le commandant Massoud, chef rebelle. Cette décision est une des dernières crises de la guerre froide. Ses multiples coups d'État, assassinats et l'invasion de l'URSS causeront quelques années plus tard une guerre civile.
Merci, nous allons pouvoir maintenant passer à un point histoire de 1989 à 1995 avec Hugo, Mathis et Julia.
Suite au départ des Soviétiques, une autre guerre va éclater et va provoquer des guerres civiles. Dans un premier temps, on expliquera le début de la deuxième phase de cette guerre, avec le retrait des troupes soviétiques en 1989, et ensuite l'unification des parties afghanes, ce qui entraîne une guerre civile et sera remportée pour les talibans, puis on terminera avec la prise de Kaboul, l'application de la charia et le territoire des talibans.
La deuxième phase de la guerre d'Afghanistan a débuté après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan en 1989, laissant les communistes afghans se défendre seuls contre les moudjahidines. Après plusieurs années de conflit, le gouvernement de Najibullah tombe en 1992, durant laquelle l'Alliance du Nord prit le pouvoir et dut faire face à une guerre civile qui éclate entre plusieurs ethnies rivales. Cette deuxième phase de la guerre d'Afghanistan fait environ 50 000 morts entre 1989 et 1992. De 1992 à 1996, une autre guerre en Afghanistan éclate. Celle-ci commence avec la démission du président communiste Mohammed Najibullah. L'État islamique d'Afghanistan est établi par l'accord de Peshawar, un accord de paix et de partage des pouvoirs, dans lequel tous les partis afghans s'unissent en avril 1992, à part le parti d'Hezbe Islami Gulbuddin de Gulbuddin Ekmatyar. Gulbuddin Ekmatyar bombarde la capitale Kaboul. Cet événement marque le début d'une autre guerre. En contraste direct avec la période soviétique, la campagne conserve un calme relatif pendant cette période, tandis que les grandes villes comme Kaboul, Mazar-e-Sharif et Kandahar subissent de violents combats. Les talibans sortent vainqueurs de cette guerre, prennent le pouvoir en 1996 et instaurent un régime islamiste sans toutefois parvenir à contrôler l'ensemble du pays.
Les talibans s'emparent de Kaboul le 27 septembre 1996. Ils chassent le président Burhanuddin Rabbani et exécutent en public l'ex-président communiste Najibullah, jusque-là réfugié dans un bâtiment de l'ONU. Après la prise du pays, ils mettent en place une loi appelée la charia. La charia est une loi islamique qui impose des règles sur la vie religieuse, politique, sociale, individuelle. Celles-ci sont appliquées de manière très stricte. Par exemple, tout ce qui est jeu, photographie, ordinateur ou télévision sont interdits. Tout ce qui pourrait divertir la population sont donc supprimés, comme le sport ou encore la musique. Les sanctions pour les femmes sont aussi drastiques. Plus le droit de travailler, plus le droit de se déplacer seul dans la rue sans être accompagné par un homme, et plus le droit d'aller à l'école. Les châtiments sont devenus aussi plus violents. Par exemple, les mains des voleurs sont coupées. Le siège du pouvoir se déplace à Kandahar, où le Mollah Omar vit dans une maison construite par le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, devenu l'un de ses proches. Le territoire des talibans, qui ont contrôlé jusqu'à 90% de l'Afghanistan, devient un sanctuaire pour les djihadistes du monde entier qui s'y entraînent, notamment Al-Qaïda.
Pour conclure, suite aux nombreuses guerres civiles et au départ de l'armée soviétique, les talibans, par de nombreux combats, ont réussi à s'emparer d'environ 90% du territoire de l'Afghanistan.
Merci. Pour continuer sur l'histoire, César va vous présenter ce qu'il s'est passé entre 2001 et 2021.
Maintenant, nous allons parler de l'arrivée des troupes américaines en Afghanistan. Donc, tout d'abord, la cause. Qu'est-ce qui a provoqué l'arrivée des troupes ? Eh bien, c'est l'attentat du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles au World Trade Center aux États-Unis, organisé par Oussama Ben Laden, qui est le chef du réseau terroriste Al-Qaïda, qui, je le rappelle, est une organisation terroriste islamiste. Donc, cet attentat a donc provoqué l'arrivée des armées américaines en Afghanistan, avec tout d'abord une intention de vengeance visant Oussama Ben Laden et l'éradication de l'organisation Al-Qaïda. Oussama Ben Laden sera tué par les Delta Force la nuit du 2 mai 2011 au Pakistan, à Abbottabad. Suite à cela, l'OTAN intervient pour contrer les attentats persistants des talibans avec l'aide de l'Alliance du Nord, comme l'attentat visant l'hôpital militaire de Kaboul le 21 novembre 2021, ou bien l'attentat à la voiture piégée le 29 août 2004 à Kaboul aussi. Kaboul étant une ville conflictuelle entre l'armée américaine et les talibans, en 20 ans, la stratégie militaire américaine sur le sol afghan est passée de fortes représailles pour au final se retirer en août 2021 du sol afghan avec un total de 2465 soldats américains morts. À l'heure où je vous parle, les talibans occupent toujours l'Afghanistan, instaurant leurs propres règles où les femmes n'ont aucun pouvoir. Ce gouvernement se proclame alors démocratique, mais les talibans arrivés au pouvoir récemment se sont emparés de cette démocratie, faisant de l'Afghanistan un gouvernement corrompu à la limite de la dictature.
Merci César. Pour conclure ce point d'histoire, Amandine, Angelina et Coralie vont vous parler d'événements plus récents qui se sont passés à l'été 2021.
Le 1er mai 2021, l'annonce du retrait des équipes américaines en Afghanistan a provoqué l'accentuation des offensives talibanes sur l'ensemble du territoire afghan. Au mois de juin, les talibans ont capturé 69 districts du gouvernement afghan. Cette reprise du territoire serait motivée par le fait de pouvoir capturer Oussama Ben Laden ainsi que de détruire les quelques bases d'Al-Qaïda, alors même sur le terrain.
Ainsi, les talibans ont fait une avancée considérable. 703 forces nationales de sécurité afghanes et 208 civils ont été tués lors d'un affrontement avec les talibans. Le ministre afghan de la Défense affirme que même au même moment, la mort de 1535 combattants talibans. Après 3 mois de combats acharnés, les talibans disent contrôler environ 85% du territoire afghan. On retrouve une propagande assez conséquente. Les talibans postent régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on retrouve une certaine résistance de la part des habitants, que ce soit par l'armée ou même par les communautés locales.
La nuit du 14 au 15 août 2021, l'Afghanistan se retrouve prise par les talibans. Kaboul, la capitale, a été encerclée avant de tomber aux mains des talibans, marquant alors une emprise totale de ces derniers sur l'Afghanistan. Même si, le 20 juillet 2021, les Américains reprennent leur bombardement, une question se pose toujours. La version ultra-rigoriste de la loi islamique, la charia, sera-t-elle imposée par le nouveau groupe au pouvoir ? La politique des talibans est dite nationaliste. En effet, ils souhaitent reprendre en main et diriger à leur guise le pays. Le 7 septembre 2021, ils annoncent d'ores et déjà la présentation d'un gouvernement intérimaire seulement composé de membres du mouvement islamiste, sans femmes, tranchant avec leurs promesses d'ouverture.
Malgré les promesses des talibans sur le respect de la liberté de presse, de nombreux journalistes ont déjà fui le pays, tandis que d'autres restent tapis chez eux, la peur des représailles. Ravagée par des décennies de conflits, l'économie afghane est en lambeaux. Le programme taliban reste alors à ce stade très vague.
Même si le chef suprême des talibans, Hébatullah Akhundzada, aurait affirmé que tous les Afghans auraient le droit de vivre dans la dignité et la paix de leur propre pays. Il a invité le nouveau gouvernement à faire respecter la charia et à tout faire pour éradiquer la pauvreté et le chômage. Pour rappel, la charia est une loi islamique interdisant jeux, musique, photographie ou encore télévision.
Merci à tous pour ce point d'histoire qui, j'espère, vous en apprend plus sur l'Afghanistan. Nous allons donc passer à la géographie de l'Afghanistan, sa situation en Asie centrale et sa mosaïque d'ethnies aux cultures distinctes qui vont être présentées par Walid et Reda.
Donc bonjour tout le monde, nous allons parler de la géographie de l'Afghanistan, de sa situation en Asie centrale et de la mosaïque d'ethnies aux cultures distinctes. Tout d'abord, nous allons présenter l'Afghanistan et la mettre dans son contexte actuel. L'Afghanistan, de facto l'émirat islamique d'Afghanistan, est un pays d'Asie du Sud ou d'Asie centrale sans accès à la mer. L'Afghanistan est entouré par l'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan à l'est-sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turkménistan au nord-ouest. Sa capitale est Kaboul. Durant l'été 2021, les talibans s'emparaient de Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Ils multipliaient dans la foulée les promesses en direction des Occidentaux. Depuis la vie est devenue de plus en plus difficile et l'Afghanistan traverse actuellement sa plus grave crise humanitaire. Donc la géographie de l'Afghanistan. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, l'Afghanistan est entouré par l'Ouzbékistan au nord, la Chine et le Tadjikistan au nord-est, le Pakistan à l'est-sud-est, l'Iran à l'ouest et le Turkménistan au nord-ouest. L'Afghanistan est un pays accidenté du fait de sa géographie accidentée. Elle est enclavée et elle est au carrefour des mondes iraniens à l'ouest. Sa superficie est de 650 000 km². L'Afghanistan est un pays en majeure partie montagneux, surtout au nord avec le Hindou Kush, et aride, souvent moins de 250 mm de pluie, ouvert par quelques vallées, Amu Darya au nord et Helmand au sud. Au pied des reliefs assez arrosés, sont développées les cultures céréalières et fruitières et implantées les principales villes dans la capitale Kaboul, Kandahar et Herat. Le reste du pays est surtout dans le domaine de l'élevage, souvent nomade du mouton. La culture du pavot, opium qui est interdite, demeure éclatant. Les richesses minières du sous-sol cuivre, lithium, semblent prometteuses. Sa situation en Asie centrale. La situation de l'Afghanistan en Asie centrale est inquiétante. Dans de telles conditions, on comprend les inquiétudes exprimées dans les 5 pays qui entourent l'Afghanistan, même si certaines sont exagérées et même si la nouvelle situation crée de nouvelles perspectives géopolitiques intéressantes pour les pays concernés.
La première quinte est d'ordre sécuritaire avec les menaces d'actions terroristes. La deuxième est liée au trafic de drogue. En effet, une bonne partie de la production mondiale d'opium provient d'Afghanistan. Or, les chemins empruntés pour l'exportation de cette drogue passent en partie par l'Asie centrale, notamment par les frontières avec Tadjikistan. La dernière crainte est liée aux migrations. Dans l'esprit des leaders d'Asie centrale, si le pouvoir taliban engendre une guerre civile dans les pays, il y a le risque que des milliers de personnes viennent se réfugier en Asie centrale où ni désir ni la capacité d'accueil d'une population afghane, souvent mal perçue par les opinions publiques locales qui voient l'Afghanistan comme le pays le plus violent des guerres et des ténèbres. La mosaïque d'ethnies aux cultures distinctes. Tout d'abord, je vais vous présenter plusieurs tribus, celle des Pachtouns, ethnie majoritaire d'Afghanistan avec plus de 40% de population. Les Pachtouns sont pour la plupart des musulmans sunnites et parlent le Pachto. Depuis le XVIIIe siècle, ils ont régulièrement contrôlé l'État et l'armée. Les talibans, qui ont pris le pouvoir pour la deuxième fois après la période de 1996-2001, sont un groupe dominant Pachtoun et les deux présidents du précédent régime soutenus par les États-Unis, Hamid Karzai et Ashraf Ghani, étaient également issus de cette ethnie. La position dominante des Pachtouns, qui sont répartis dans une zone en arc de cercle, s'entend de la frontière pakistanaise à la frontière iranienne et aussi de du pays, a souvent provoqué les ressentiments des autres groupes ethniques, s'estimant marginalisés sur les plans politiques, économiques et culturels. Ensuite, il y a les Tadjiks, deuxième groupe ethnique du pays, représentant environ un quart de la population. Les Tadjiks parlent le Dari, farsi en persan. Et puis les Harzans, l'esqui présenté autour du 10% de la population afghane et parle en dictatel Dari, sont considérés comme originaires d'Asie centrale et de peuples turcs et se trouvent principalement dans le centre du pays. Il s'agit d'une minorité chiite violemment persécutée depuis des siècles, notamment par les talibans qui les considèrent comme des hérétiques. Les Hazaras ont également été la cible d'attaque à la bombe meurtrière du groupe État islamique.
Merci pour ce point sur la géographie et les ethnies qui riment le pays et qui nous permettent maintenant de présenter correctement les productions journalistiques du journaliste afghan et de son épouse, avec Mamadou et Mathéo qui vont nous présenter leur vie et leur parcours.
Le métier de journaliste en Afghanistan est extrêmement compliqué et à risque pour la vie de ces hommes et femmes qui vivent dans leur métier pour vivre, tout cela à cause de répression du groupe extrémiste taliban, qui réprime la liberté d'expression et de répression. Ces répressions engendrent aux journalistes des conséquences comme des emprisonnements, des injures, des blessures et même conduit à la mort. En Afghanistan, plus de 40% des médias ferment et 80% des femmes journalistes au chômage depuis la prise au pouvoir des talibans. Ce qui montre bien le déclin sur l'égalité des sexes. Des manifestations ont lieu, mais se terminent très mal, car les talibans arrivent et donc tabassent tout le monde. Ce qui fait de l'Afghanistan l'un des pays les plus dangereux du monde pour les journalistes. En Afghanistan, 600 personnes ont perdu leur job et beaucoup de stations sont fermées.
Les journalistes afghans sont oppressés par les extrémistes talibans qui exercent leur pouvoir en Afghanistan et privent les citoyens de leur liberté. Par exemple, les journalistes afghans ne doivent pas divulguer d'informations à l'encontre de l'islam sous peine d'emprisonnement ou de mort. Ce qui fait de l'Afghanistan l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes sont les menaces et les dangers qu'ils prennent tous les jours. Les deux journalistes afghans Sofia Saki et son mari Shafiq Karimi ont dû fuir le pays avant le retour des talibans, car ils n'étaient pas en sécurité. Malgré cela, de nombreuses femmes ont été tuées par les talibans. Les réfugiés sont accueillis dans certains pays, comme le jeune de couple qui est venu en France.
Vous avez pu écouter ce que les deux journalistes produisaient, mais tout ceci dans quel cadre? Nous allons donc maintenant voir quelles étaient les libertés de ces journalistes à travers la liberté de la presse, le journalisme d'investigation avec Kylian, Jade et Clara.
Donc d'après vous, en quelle position est classé l'Afghanistan au niveau des droits de la presse en 2021 sur 180 pays? Eh bien, elle se classe 122e. En effet, depuis août, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan et le risque d'être journaliste dans ce pays est donc de plus en plus élevé, autant pour les femmes que pour les hommes afghans ou même les journalistes étrangers.
Les talibans font pression sur les journalistes. En effet, beaucoup de journalistes sont tapés et même torturés. Par exemple, plusieurs journalistes qui filmaient une manifestation ont été frappés par les talibans car ils voulaient empêcher la couverture de cette manifestation de femmes qui se battaient pour leurs droits le jeudi 21 octobre 2021 au centre-ville de Kaboul. Les reportages critiques sont interdits. Tout doit aller dans le sens des talibans. L'influence négative sur l'opinion politique est interdite. Il ne faut pas diffuser des sujets contraires à l'islam. Les femmes doivent porter le burqa. Par exemple, pour les femmes journalistes, elles sont invitées par leurs rédacteurs à rester chez elles, car le risque était bien trop élevé pour elles. En 2020, il y avait environ 700 journalistes femmes à Kaboul, alors qu'aujourd'hui, il y en a moins de 100. De plus, d'après les talibans, les femmes n'ont pas leur place dans le journalisme.
Sofia Saki et son mari, Shafi Karimi, tous les deux jeunes journalistes en télévision, ont dû fuir leur pays après avoir reçu une menace de mort de la part des talibans, même si d'après eux, l'Afghanistan n'a jamais été un pays sûr pour le journalisme. Ils se réfugient donc en France, où ils sont très bien accueillis et vont devoir se mêler à la vie active française, comme par exemple apprendre la langue. Mais ce ne sont pas les seuls journalistes afghans à être dans cette situation, et malheureusement, ils ne peuvent pas tous se loger ou continuer d'exercer le métier de journaliste. Donc, l'objectif de Sofia et Karimi est de créer une association pour toutes les personnes dans cette situation.
Donc pour conclure, je souhaiterais rappeler qu'au cours du dernier mois et demi, 32 reporters ont été arrêtés ou même maltraités. 103 journalistes afghans ont signé une tribune qui a été publiée par le RSF, Reporters sans frontières, le 16 septembre 2021, qui fait un appel à la solidarité pour éviter l'extinction du journalisme en Afghanistan. L'ONU se penche sur la sécurité du journalisme qui se dégrade de plus en plus.
Merci à vous trois. Comme nous avons pu le constater, tous ces types de droits sont très difficiles d'accès, sinon impossibles. C'est pour ça que de nombreuses personnes s'exilent, comme nos deux journalistes. Ce ne sont pas les seules raisons d'exil et nous allons les voir tout de suite. Exil et migration en raison d'un demi-siècle de guerre continuelle avec Émilie et Marie.
C'est en 1971 que les exils et les migrations se sont multipliés lorsque les USA ont aidé et armé les talibans pour contrer le régime communiste. En conséquence, vers fin 2001, l'Afghanistan est devenu un pays en faillite et un État divisé en deux zones sous deux différents gouvernements. Celui national, à Kaboul, la capitale, et celui des talibans. En dehors de ces deux zones, il y a la troisième, qui est la pire. C'est la zone disputée entre le gouvernement et les talibans. C'est ici que la guerre est la plus sanglante, où des civils meurent quotidiennement dans des attaques venant des deux côtés. Pour fuir cette guerre, 2,5 millions d'Afghans ont quitté le pays et se sont retrouvés pour la plupart en Iran, au Pakistan, en Turquie et une minorité en Europe. Cette guérilla a eu comme cause des millions de réfugiés. Les Afghans représentent la troisième nationalité la plus nombreuse et l'ONU sont chargés de les protéger. Les demandes d'asile ont débuté à partir de 1998 et le nombre de réfugiés afghans a augmenté au cours des années et atteint plus de 6,3 millions. Armand Hamadi, âgé de 17 ans, en est à sa deuxième tentative. Il a été expulsé de Turquie après avoir été arrêté à Istanbul, où il travaillait clandestinement comme coiffeur. Il aimerait s'installer pour de bon en Europe. Pour vous expliquer ce trajet jusqu'à l'Europe, ma collègue Émilie Chaplin va vous prendre la parole.
Effectivement, pour arriver à ce continent, il faut payer 20 000 euros un passeur pré-armes à Kaboul, qui va organiser différentes étapes dans chaque pays, comme l'acquisition de faux papiers et les billets pour chaque moyen de transport. Allant de la marche à pied au train à grande vitesse, alors que pour une personne lambda et dans la légalité, il suffit juste d'un billet d'avion à 800 euros à durée de 10 heures de trajet comparé à plusieurs jours pour les réfugiés. Les pays européens sont effectivement très demandés et ont accueilli 12,8% de réfugiés afghans, mais néanmoins les pays les plus présents dans l'accueil des réfugiés sont le Pakistan et l'Iran, avec environ 85% de réfugiés, car ce sont des pays voisins.
Mais alors, est-ce que des pays à l'inverse ont mis en place des systèmes pour contrer ces migrations ?
Oui, la Turquie en particulier, qui a construit un mur long de 243 km, bordé de fossés à sa frontière avec l'Iran, qui est longue de plus de 500 km, ce qui est mis en place évidemment pour éviter toute rentrée non voulue, car la Turquie souhaite éviter toute augmentation de réfugiés. Les États-Unis n'ont accueilli que 0,1% des réfugiés afghans grâce à leur haut contrôle au niveau des frontières. Pour conclure, la guerre présente en Afghanistan a créé d'énormes vagues de migration. Certains pays ont aidé ces migrants, mais d'autres ont totalement évité de fournir de l'aide ou alors n'en fournissent plus.
Merci à Marie et Émilie. Maintenant, nous allons vous parler d'un film, Kandahar, qui parle d'une femme afghane et qui est autour de l'exil aussi, avec Jade et Manon.
Le film Kandahar donne un terrible aperçu de la condition humaine de l'Afghanistan. Son réalisateur, Mohsen Makhmalbaf, est un réalisateur engagé qui a reçu de nombreuses récompenses. Kandahar raconte l'histoire de Nafas, une journaliste afghane qui s'est réfugiée au Canada durant la guerre civile des talibans. Nafas reçoit une lettre désespérée de sa petite sœur, restée en Afghanistan. Elle a décidé de mettre fin à ses jours avant la prochaine éclipse solaire. Kandahar est sorti en 2001. Ce film est passé inaperçu jusqu'aux attentats du 11 septembre qui ont entraîné la guerre d'Afghanistan. Kandahar a pris de l'ampleur grâce à l'actualité. Il a été relayé par des militants des droits de l'humain et surtout des femmes. Ce relais est dû à son thème majeur qui est le droit des femmes.
Certaines scènes ont d'ailleurs été improvisées avec de véritables réfugiés. Kandahar est un film authentique qui est réaliste vis-à-vis du malheur afghan. L'actrice qui joue Nafas se bat pour le droit des femmes en Afghanistan, ça en fait un fil conducteur. Kandahar est comme un puzzle de situations. Chaque situation renvoie à la même question obsédante, que reste-t-il de la dignité des hommes quand on leur a tout pris ? Plus que le but de sauver sa sœur, le film brille surtout par le périple de Nafas, de ses rencontres, de son voyage. Épuré et bouleversant, Kandahar raconte l'enfermement de tout un pays, de tout un peuple. Il est sans aucun doute l'un des plus beaux films de Mohsen Makhmalbaf, mais aussi l'un des plus douloureux.
Tous les sujets du film nous amènent maintenant à en savoir plus sur la vie quotidienne avec les talibans, qui va nous être présentée par Elisa, Lola et Carla.
Afghans et talibans se sont opposés lors d'une guerre de territoire durant de nombreuses années. Après leur victoire en août 2021, les talibans ont envahi l'Afghanistan, puis ont pris le contrôle du pays. Leur présence sur le territoire a causé et cause encore de nombreux problèmes dans la vie quotidienne des Afghans. Les talibans envahissent le pays avec pour objectif d'installer un régime islamiste et ultra-conservateur. Les droits des Afghans sont alors limités et fortement restreints.
Les talibans s'imposent en implantant leur drapeau sur le territoire. Ils détruisent alors les écoles du gouvernement afghan pour instaurer leur propre école, des écoles religieuses pour les filles et des écoles où les fondamentalistes enseignent le programme taliban pour les garçons. Les talibans interdisent aux femmes de consulter des médecins, notamment les médecins hommes, et leur bloquent ainsi l'accès aux soins. Les talibans ont maintenu le commerce instauré par les Afghans, notamment envers le Pakistan. Cependant, ils ont rajouté une taxe imposée aux agriculteurs afin de financer leur activité agricole.
Certains Afghans prennent goût aux loisirs interdits par les talibans, comme se tailler la barbe, danser dans les mariages, mais tout ceci est impossible. Les femmes sont obligatoirement voilées lorsqu'il y a des caméras ou du monde extérieur. Elles sont contraintes de porter le voile intégral, dévoilant seulement les yeux avec un grillage. Les journalistes sont aussi impactés suite à l'arrivée des talibans. Ils n'ont plus aucune liberté d'expression. Une centaine de chaînes ont fermé suite à la censure plus forte que jamais. Il ne reste que très peu de femmes en tant que journalistes télé et elles ont pour obligation de porter le hijab. Si elles ne le portent pas, elles pourraient se faire arrêter ou exécuter.
Vivre sous les talibans est une contrainte permanente. La vie des Afghans a été bouleversée suite à cette guerre de territoire. Aujourd'hui, ils luttent tant bien que mal contre ces atteintes aux libertés fondamentales avec des lois toujours plus strictes.
Une grande question se pose maintenant. Mais comment s'orchestre l'éducation en Afghanistan ? Ce sujet va être abordé par Alicia, Angélique et Ella.
Aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper, c'est le droit à l'éducation en Afghanistan. Les talibans ont pris le pouvoir en août 2021. Les enseignants, camarades, fuient le nouveau régime mis en place par les talibans afin de trouver de nouveaux refuges. Pour cela, il faut voir l'évolution de l'éducation depuis l'arrivée des talibans en Afghanistan. Je laisse Angélique vous présenter les problèmes éducatifs avant les talibans.
Tout d'abord, comment étaient les problèmes éducatifs avant l'arrivée des talibans ? En Afghanistan, les villages sont parfois loin les uns des autres et les trajets restent dangereux, que ce soit pour les enfants ou pour les enseignants. C'est pour cela que les parents ne veulent pas forcément envoyer leurs enfants à l'école, surtout les filles. Dans certaines régions, les élèves suivent leurs cours sous des tentes sans forcément avoir de protection contre les intempéries. Et les enseignants ne sont pas forcément qualifiés. Pour faciliter et améliorer l'apprentissage des enfants et des enseignants, des associations comme l'UNOPS aident à construire plusieurs écoles dans certaines provinces d'Afghanistan. Grâce à ce projet, plus d'enfants peuvent aller à l'école. Avant l'arrivée des talibans, il y avait 46% des enfants qui allaient à l'école. Je vais passer la parole à Ella, qui va vous présenter les problèmes éducatifs depuis l'arrivée des talibans.
Depuis l'arrivée des talibans, les filles ont le droit à une éducation jusqu'à l'âge de 11 ans. Ils veulent s'assurer que les filles âgées de 12 à 19 ans soient séparées des garçons et que les établissements fonctionnent selon les principes islamiques. Les garçons, eux, étudient seulement le Coran, n'ont plus aucune matière scolaire classique telle que l'histoire ou l'anglais. Les talibans ont annoncé après 7 mois au pouvoir que les filles pourraient reprendre le mercredi 23 mars 2022 le chemin du lycée à Kaboul. Après une décision des talibans pour la réouverture des collèges et lycées aux filles dans le pays, ils changent d'avis. Les filles n'ont toujours pas accès à l'éducation depuis 7 mois.
Me revoilà pour vous conclure ce que Ella et Angélique ont dit. Pour résumer, le droit à l'éducation en Afghanistan est compliqué, mais nous avons toujours espoir avec les avancées de certaines associations comme l'UNOPS. Malgré tout ça, les filles n'ont toujours pas accès à l'éducation et ce n'est pas prêt de changer. Que va devenir la future génération féminine ?
Il nous reste désormais le dernier sujet, et pas des moindres, qui est le droit des femmes afghanes en général, qui va être présenté par Capucine, Emma et moi-même. Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Celles qui, depuis 20 ans, avaient peu à peu acquis des droits, qui ont vu en très peu de temps leur progrès réduit à néant par les nouveaux maîtres du pays. Les droits au travail et à l'éducation mentionnés précédemment, ainsi que les droits d'expression de mouvement et de réunion, leur ont été retirés.
En effet, depuis leur nouvelle arrivée au pouvoir, donc en août 2021, les femmes sont à nouveau les cibles du régime imposé donc par les talibans. Ce même régime qu'il y a 20 ans restreignait les droits des femmes. Ces femmes étaient autrefois très actives dans de multiples secteurs du travail, mais également dans la vie politique et économique, mais aujourd'hui sont contraintes de rester chez elles. Parmi les multiples secteurs du travail, seul le secteur hospitalier leur est toujours ouvert depuis le retour des talibans à Kaboul, ce qui affecte leur capacité à travailler et de ce fait les enfonce dans un certain seuil de pauvreté. Les femmes craignent donc par ailleurs que le scénario de 1996 se renouvelle.
Durant le premier règne des talibans entre 1996 et 2001, les femmes avaient totalement disparu de l'espace public. Les filles étaient privées d'éducation. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler ni de sortir dans la rue sans être accompagnées d'un homme de leur famille proche. Elles devaient aussi porter la burqa qui couvrait tout leur corps et leur visage. Même si les talibans ont plusieurs fois assuré qu'ils avaient pris en maturité et souhaitaient soigner leur image de 1996, on me remarque certaines similarités entre le premier règne de 1996 et depuis le retour en août 2021. Ce 23 mars, de nouvelles décisions concernant les femmes ont été prises. Les lycéennes et collégiennes ne peuvent plus retourner à l'école. Peu de temps plus tard, les femmes sont officiellement interdites de voyager hors du territoire sans un homme proche de leur famille.
En clair, la situation des femmes est similaire à celle d'avant l'arrivée des talibans au pouvoir. Uniquement à cause de leur sexe, la quasi-majorité des droits fondamentaux leur ont été supprimés. La situation et l'avenir des femmes inquiètent le monde entier, car nous possédons peu d'informations en raison de la fermeture d'un certain nombre de structures françaises en Afghanistan. Merci à tous les élèves qui se sont impliqués dans ces recherches sur ce sujet et ce pays d'une complexité hors norme. J'espère que vous en avez appris plus sur l'Afghanistan, qui n'est pas forcément un sujet beaucoup traité.